Bon, après avoir vu donc notre ami Surville, on en a avoir dit du bien, on va aborder Georges Lasseur. Lasseur, il mérite une mention spéciale. C'est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Histoire de la ville de Domfront et de ses environs », il se donne en entier, qui reste, près d'un siècle après, un ouvrage de référence, même s'il n'est pas exempt de défauts. Je suis désolé de critiquer Lasseur, bon, c'est pas impeccable. Alors, sa biographie est rédigée par René Joanne. René Joanne, il était ce qu'on appelait à l'époque archiviste de l'Orne. Il a été de 1914 à 1954. De nos jours, on dirait directeur des archives départementales. René Joanne l'avait aidé dans ses travaux et il a fait sa biographie en tête du tome 2, parce que l'auteur de l'histoire de la ville de Domfront, on va voir, il y a deux tomes. Il y en a même plus, mais on va voir ça tout à l'heure. Alors, je suis pas un intime de Georges Lasseur, donc je vous transcris ce que j'ai lu, notamment dans sa biographie de René Joanne. Alors, il est né en 1883 et de profession, il était agent voyer. J'ai pas de traduction, ce serait en dessous d'ingénieur des travaux publics. Pas vraiment ingénieur des travaux publics. Blanchetière était ingénieur des travaux publics. Lui, c'est un cran en dessous. Technicien supérieur. Plus autre chose que pas cantonnier, quand même. Donc voilà, il est agent voyer. Il a été affecté temporairement à Domfront vers 1905-1906. Alors c'est important parce que c'est là qu'il a fait la connaissance de Gabriel Hubert. Gabriel Hubert, on aura en reparler un petit peu aussi. Il a été mobilisé en 14, comme tout le monde, enfin comme tous ceux, hélas, qui avaient l'âge de l'être à l'époque, ouais, ouais. Beaucoup de monde. Et il a été blessé au front en 1915, et il est passé de l'infanterie au génie. Ce qui, pour quelqu'un qui travaillait dans les travaux publics, les voies, etc., c'était pas idiot de le transférer au génie, il aurait même pu commencer par là, d'ailleurs. Et il a fini la guerre comme lieutenant. Alors, après la guerre, il est monté en grade, il est passé agent voyer principal en 1923, et il était chargé de l'inspection de la voirie de l'ouest du département. Mais il était malade, il a pris sa retraite en 1937. Et à partir de là, il a poursuivi il avait commencé depuis très longtemps, en fait. Il était passionné d'histoire, cet homme-là, même si c'était pas du tout sa profession. Et il a poursuivi ses travaux historiques sur Domfront. Et il est hélas mort prématurément le 2 décembre 1945, en laissant son livre inachevé. Alors son ouvrage, donc l'histoire de la ville de Domfront et de ses environs, il l'a fait. Alors il n'était pas historien de profession, on a bien vu, ni de près ni de loin, mais il a connu donc Gabriel Hubert, dont on a parlé, qui lui était. Alors il n'était pas historien de profession non plus, mais il avait une solide formation, Gabriel Hubert, mais on en reparlera quand on sera à Gabriel Hubert. Et donc de René Joanne, qui lui aussi, archiviste, paléographe, directeur des archives, enfin bon, bref, il avait le... Donc ils l'ont beaucoup aidé, et il a effectué des recherches approfondies sur Domfront et son histoire. Il était, comme il était aussi dans les travaux publics, il était capable de lever des plans, donc il a levé des plans du château, d'un certain nombre de monuments, etc. Alors son projet d'écrire une histoire de Domfront, il l'a eu dès son passage à Domfront, ou dès après son passage à Domfront, vous vous souvenez, il était là en 1905-1906, ouais. Donc ça a dû intéressé, ce qu'il a vu ici, où il s'est renseigné, etc. Et on sait que dès les années 1906-1909, il a commencé, en fait. Donc ça remonte à très très loin, son histoire. Alors il a publié d'abord en chapitre dans le Pays Bas Normand, comme Surville, hein, dans les années 30. Et puis, son ouvrage est paru dans des conditions très difficiles, parce qu'il est paru pendant la guerre. Son tome 1, alors le tome 1, il va des chapitres 1 à 10, c'est-à-dire, il commence par le milieu naturel, la topographie, les roches, etc., le climat, etc. Et il va historiquement ensuite jusqu'à la fin de la guerre de Cent Ans. Donc ça fait quand même 450 pages. Il y a des illustrations dedans. Alors il y a ses plans à lui, quelques dessins à lui, mais il y a aussi beaucoup de dessins d'un personnage que les Domfrontais connaissent bien, surtout que Daniel Yvetot en avait fait la promotion, c'est Payette, le dessinateur. Donc beaucoup de dessins sont en fait de Marcel Payette. C'est marqué d'ailleurs. Hein,
c'est signé.
Il lui pique pas ses dessins. Hein, ils ont travaillé en collaboration. Donc cet ouvrage, le tome 1, paru en pleine guerre, il a été tiré à 250 exemplaires seulement, ce qui fait que de nos jours, c'est une rareté. Avec une couverture en carton très faible, je dirais même plutôt en papier renforcé qu'en carton. Ce qui fait que celle est extrêmement fragile. Ouais. Il suffit qu'on tire dessus et craque, surtout quand le carton a vieilli. Donc c'est un ouvrage qui est très fragile et très rare. J'en ai vu personnellement 5 ou 6 exemplaires, pas plus. Dont certains ont été reliés après, ce qui fait qu'ils sont un peu plus solides, mais dans la couverture d'origine, c'est pas beau à voir. Et ensuite, en 1948, est paru le tome 2. Alors, mais vous avez bien entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, il est mort en 1945, donc le tome 2, il est posthume. Donc il y a des gens qui sont occupés de faire paraître son tome 2, qui couvre les chapitres. Alors les chapitres sont en continu, hein, c'est pas parce qu'on en reprend un nouveau tome qu'on revient au numéro 1. Donc lui, il continue, donc il avait arrêté au chapitre 10, il reprend au chapitre 11, et il va jusqu'au chapitre 18. C'est-à-dire, chronologiquement, il va de après la guerre de 100 ans, donc grosso modo, on va dire, de Louis XI à peu près, jusqu'à la veille de la Révolution. Et puis il a ajouté, alors manifestement, c'est après coup, il a ajouté un gros chapitre 19, que l'on peut parfois trouver en ouvrage séparé. Enfin, c'est plus le chapitre 19, c'est un ouvrage séparé sur les fiefs et les manoirs du Domfrontais. Alors là, il y a toute une série de tous les manoirs qu'on connaît, la Chalerie, la Guyardère, la Servière, tous les fiefs qui sont connus, etc. Ouais. Ils ont une lettre chacun, ça va de A à Q ou Y ou Z, enfin bon, bref. Donc on peut trouver cette partie-là en ouvrage séparé, mais sinon il l'a mis en chapitre 19 de son ouvrage. Alors ça fait quand même 768 pages, c'est encore plus gros que l'autre. Je ne sais pas à combien s'il a été tiré à plus d'exemplaires. En tout cas, moi j'en ai pas vu plus que le tome 1. Je crois même que j'en ai vu moins. Il y a celui de la bibliothèque municipale, j'ai vu une personne privée en avoir un. Enfin bon, c'est quand même des raretés. Et puis, ce qui est beaucoup moins connu, c'est qu'il avait prévu une suite. Donc il y a un tome 3 qui n'a jamais été édité, qui existe sous deux formes, un manuscrit et un tapuscrit. Donc, manuscrit, c'est à la main, tapuscrit, c'est tapé à la machine, qui se trouve aux archives départementales de l'Orne, qui vont... Alors, intéressant, parce qu'ils vont du chapitre 16 au chapitre 24. Ça va pas, puisque si vous m'avez bien écouté...
On a carrément le 19,
ouais. Voilà, tout à l'heure, c'était le 19, ou même s'il avait rajouté le 19, ça aurait été le... S'il s'était arrêté au 18, il aurait dû repartir à 17. Donc, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a une renumérotation à l'intérieur du tome 2 ou quoi ou qu'est-ce. Enfin bon, son tapuscrit va de 16 à 24 et ça couvrait la période qui va donc de la Révolution, inclus cette fois-ci, jusqu'à 1870, la guerre de 1870. Et il s'était arrêté là. Alors vous allez me dire, de la guerre de 1870, c'est loin. Mais pour lui qui écrivait, qui a commencé à écrire en 1910, hein, à peu près, hein, dans les années 1910, c'était pas si loin que ça. Non. Il n'avait donc pas osé aller dans ce qui était à l'époque, aurait été du super contemporain, quoi, avec des gens qui vivaient encore. Donc ça explique peut-être voilà. Alors le tapuscrit, je l'ai vu, il se termine par une note finale, avec une datation, qui inclut une datation de juillet 1914. Je ne dis pas qu'il racontait jusqu'à juillet 1914. Hein. Il y a quelque chose qui est écrit juillet 1914, ce qui prouve que la sœur avait donc à peu près terminé l'intégralité de son ouvrage, donc les tomes 1, 2 et le 3 n'ont paru, avant la Première Guerre mondiale. Même si les ouvrages ne sont parus qu'en 1942 et 1948 et pas du tout pour le troisième. Donc c'est un ouvrage remarquable, hein, assez complet, qui est basé sur des documents. Alors on a vu que les premiers historiens de Donfond, là, les tout premiers... On ne sait pas où est-ce qu'ils ont trouvé leur truc. Ensuite, il y en a des, style Caillebotte, qui ont vu des choses, mais qui ne disent pas exactement ce qu'ils ont vu et où est-ce qu'ils l'ont vu. Delandeno commençait à le dire, hein. On était aux alentours de 1800. Blanchetière était aussi à peu près sérieux. Et la sœur, vous voyez, on fait des progrès dans la scientificité de l'histoire. Hein. On ne se contente plus de dire et de raconter. On dit, oui, mais c'est pas tout ça, j'ai trouvé ça là. Alors c'est essentiel, hein. J'y reviendrai sans doute plus tard, parce que ça permet, ça donne quand même une base sérieuse à ce qui est dit. Et puis, si on a un doute quelconque, on peut aller voir. Et quand on y va revoir, oui. Puis des fois, on dit, il avait mal lu ou il a mal compris. Je me suis rendu compte qu'il y avait certaines choses que la sœur avait mal comprises. Voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas parfait, son ouvrage. Ouais. Parce qu'il y a quelques erreurs. Il y a des cotes, des fois il met sources, je ne sais pas moi, par exemple, archives nationales. Ah, t'es gentil, Georges, hein, mais enfin, les archives nationales, il y a je ne sais pas combien de centaines de milliers, de millions de cotes. Pas tout de me dire que ça se trouve aux archives nationales.
Il faut être un peu plus précis.
Voilà, on peut toujours aller chercher après. Des fois, ces cotes sont fausses, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est une faute de frappe, par exemple? Une cote, il donne... cette fois-ci, c'est la Bibliothèque nationale. Hein, il cote BNF, manuscrit français. Français, ça veut dire que les documents sont écrits en français. Le manuscrit latin, c'est qu'ils sont écrits en latin. Puis il donne un chiffre, donc il y a un registre, hein, et puis le chiffre ne correspond pas. Quoi. C'est 26-045 là où ça doit être. 20-045 là où ça doit être 26-045.
Ouais,
est-ce que c'est une simple faute de frappe ou quoi?
C'est possible.
Mais la personne qui irait direct au 20-045 numéro temps, il tomberait sur. Je ne sais pas sur quoi il tomberait, mais il ne tomberait pas sur quelque chose de Donfond. Donc voilà, voilà. Donc c'est quand même un ouvrage quand même extrêmement intéressant, basé donc sur des documents, on vient de le dire, qui viennent des... Alors, il connaissait, mais ça, on lui connaissait déjà, les archives du Pas-de-Calais, puisque Blanchetière les avait vues, René Joanne, Louis Duval les avait vues aussi, bon, donc ça, c'était déjà connu, et bon, il les reprend. Je ne sais pas s'il les a vues pour de vrai, mais il les reprend. Il y a des codes de documents qui sont à la Bibliothèque nationale et aux archives du Pas-de-Calais, pas tellement aux archives nationales. Je m'empresse de vous dire qu'on reviendra sur les documents, parce que les gens qui m'interrogent disent « Ah, où est-ce que vous trouvez ça aux archives de l'Orne ?» Ben non, pas tellement. Ben, Pas-de-Calais, si, ça se comprend aisément, parce que les comtes d'Artois, à un moment donné, ont été, pendant à la fin du XIIIe siècle, pendant une quarantaine d'années, ils ont été seigneurs de Domfront, donc les documents ont été conservés là-bas.
D'accord. Ouais.
Donc ça peut encore se concevoir. Le reste, si c'est parti à la Chambre des Comptes, même si c'est un apanage ou quoi que ce soit, c'est royal, ou apanagé, il y a quand même la Chambre des Comptes royale qui met son nez là-dedans, et ça finit à Paris, donc à la Chambre des Comptes, bien plus qu'aux archives de l'Orme. Enfin là, déjà, on est sur les documents. Donc, voilà, alors ça reste quand même une référence, hein, la sœur, il faut en prendre et en laisser, mais ça reste une référence. Mais il a écrit donc, au début du XXe siècle. Il a publié à la moitié du XXe siècle. Or, depuis, il y a eu des tas de découvertes archéologiques, par exemple au château, le cœur de Saint-Symphorien. Lui, il ignore complètement. Il suppose que la courtinaïenne continue, par exemple. Et il met une ligne droite. Schlof. Bon, maintenant, on sait que c'est pas ça. Donc, il y a eu des découvertes archéologiques. Et on a également trouvé de nouveaux documents que lui ne connaissait pas. Donc, évidemment, il pouvait rien en dire, puisqu'il ne les connaissait pas. Et des documents importants. C'est un ouvrage qui... alors, il n'est pas dépassé. Ce serait inepte de dire qu'il est dépassé, parce que je continue à dire qu'il est très bien. Mais il doit être dépassé par une nouvelle publication. Voilà.